Auditrice, auditeur, bonjour. Dans le cadre de l'émission Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui La Libre Pensée, au micro David Gozlan, secrétaire général de la Fédération nationale de la Libre Pensée. J'ai l'honneur de recevoir les docteurs Jérôme Marty, médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre de Fronton, et Christophe Prudhomme, urgentiste, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France à Bobigny, ainsi que le professeur Tinès, qui est en ligne avec nous et qui nous rejoindra dans le cours de l'émission. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Alors, depuis maintenant près de 9 mois, le mouvement des Gilets jaunes secoue le pays. Nous avons eu affaire à un président de la République qui d'abord a volontairement minimisé, puis a sorti l'arme du grand débat, pour finir par dire que tout le monde devait rentrer chez soi. À la suite des manifestations sur la loi dite travail, qui avait déjà connu de violentes charges policières, nous sommes rentrés dans une dimension nouvelle, avec des blessés, avec des mutilés. Ces blessés se rendent naturellement dans les hôpitaux et sont pris en charge par le personnel hospitalier qui en voit beaucoup passer. Vous êtes, docteur Marty et docteur Prudhomme, signataire d'une pétition demandant l'arrêt du fichage des gilets jaunes et autres manifestants. Pouvez-vous nous expliquer votre démarche, docteur Marty?
On va demander d'abord à Christophe Prudhomme qu'il en parle, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, et c'est lui qui a lancé la première alerte au mois de décembre.
Alors,
nous, on a relayé ensuite au mois de février, ça a été très relayé par la presse, mais il faut reconnaître que c'est lui qui a lancé un petit peu les choses. Donc peut-être que par cela, il est légitime qu'il commence.
Un certain nombre de médecins urgentistes, et principalement Gérald Kierzek, qui est médecin à l'Hôtel Dieu, donc était au cœur du dispositif. Effectivement, ce fichier, on le connaît. Il a été mis en place à la suite des attentats. C'est un fichier qui permet de recueillir les identités des victimes lors d'un événement gravissime, qui est un attentat, un accident d'avion, un accident de train, et qui a pour objectif de pouvoir permettre aux familles de retrouver d'éventuelles victimes. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on relève les identités. Donc c'est bien un fichier avec un fichage et donc qui collecte les identités des patients. Et pour nous, ça pose problème parce que on accepte tout à fait cette démarche dans le cadre que j'ai défini, enfin qui est défini d'ailleurs par la loi. Par contre, lors d'un mouvement social, pour nous, c'est inacceptable. En tant qu'urgentiste, il y a une règle, mais c'est pour tout médecin. On ne demande pas ses papiers à la personne qu'on soigne. On n'est pas là pour soulager la détresse. Et ce d'autant qu'il y a nécessité d'une relation de confiance. Et cette relation de confiance peut être rompue si effectivement on révèle l'identité. Ça fait partie du secret médical, l'identité.
Allez-y.
Donc là, le problème, c'est qu'il y avait injonction des directions.
Alors c'est ça qui est important.
Injonction des directions hospitalières sur ordre du gouvernement. Mmh. Et le gouvernement, c'est la sécurité publique, c'est bien le ministère de l'Intérieur. Et pour nous, ça pose problème. C'est-à-dire qu'il doit bien y avoir une séparation entre le monde médical et le monde de la police. Quand il y a besoin de la police, on fait appel à la police, ce sont des affaires médico-judiciaires, mais on mélange pas au quotidien la police et la médecine. Faut être clair, autrement, il y a rupture de cette relation de confiance avec les patients, et ce qui peut provoquer, ce qui peut être contre-productif. Comprenez bien que si les patients ont peur de venir à l'hôpital, en particulier sur des lésions oculaires, il peut y avoir un retard de prise en charge catastrophique avec une véritable perte de chance.
Donc, qui entraîne des dommages pour patients. Quand on a découvert
qu'on activait ce dispositif, ça nous a paru scandaleux. Et vous savez, à l'hôpital, si on met pas ça sur la place publique, on va mettre la poussière sous le tapis. Donc on a alerté tout de suite, les médias pour que ça sorte. Et visiblement, les pouvoirs publics étaient très embêtés et se sont enferrés dans le mensonge. Et quand on commence à mentir, eh bien, c'est un mensonge peut justifier le mensonge précédent. Et là, aujourd'hui, ils sont au fond du trou.
Oui. Alors là, il y a plus d'une centaine de médecins qui ont signé d'ores et déjà cet appel qu'on peut retrouver sur le site de l'Express. Docteur Marty, vous, votre démarche a été, j'imagine, similaire à celle du docteur Prudhomme. Mais quand il dit il y a une mise en relation, c'est-à-dire que ce fichier-là, tous les services de police et ou de justice, parce qu'à terme, il y a aussi la question de la justice, si la police instruit, peuvent être saisis de ce fichier-là.
C'est dans la loi, oui. C'est dans la loi, ils peuvent utiliser, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, peuvent utiliser ce fichier. Alors, on ne dit pas qu'ils l'ont fait, mais ils peuvent le faire. Et rien que ça ouvre à toutes les dérives. Il y a eu un dévoiement de cette histoire-là, de l'utilisation de ce fichier, comme l'a dit Christophe Prudhomme, c'est normalement utilisé dans des circonstances extrêmement particulières. Et là, on n'était pas dans des circonstances extrêmement particulières, on était dans ce que j'ai appelé des circonstances continues, puisque 23 samedis de Gilets jaunes, on ne peut plus parler de circonstances particulières, c'est des circonstances continues. Mmh. Comme il le dit, ça touche tout le monde, ça touche tous les médecins. Je veux dire, qu'on soit généraliste, qu'on soit spécialiste de ville, ou qu'on soit hospitalier ou urgentiste, on est tous touchés par ça, parce que on touche aux valeurs mêmes de la médecine, au socle de la médecine, qui est le secret médical, qui est notre déontologie, notre éthique, on ne peut pas accepter que l'on dévoie à la fois nos valeurs et que l'on dévoie l'utilisation d'un fichier pour aller bafouer le secret médical, utiliser à des fins politiques, judiciaires, que sais-je, des renseignements sans, et ça c'est ce qui est important, sans le consentement du patient. On n'a jamais demandé au patient quel qu'il soit, on ne leur a jamais dit attention, vous risquez d'avoir votre nom là et ce nom va être exploité ou votre passage aux urgences sera potentiellement exploité par une administration qui n'est même pas l'administration sanitaire. Donc là, on est totalement à côté de notre mission et les médecins se sont élevés contre ça avec juste raison.
Alors, la ministre Agnès Buzyn, je suis désolé dans cette émission de me faire l'avocat du diable, c'est un peu drôle, mais bon, voilà. La ministre Agnès Buzyn a déclaré « Il n'y a en aucun cas de fichage. Je me fiche de savoir si ce sont des manifestants, des forces de l'ordre, des journalistes ou des passants », a-t-elle lancé, rappelant que la CIVIC est un système, donc c'est le système de fichage, est un système purement administratif qui permet de repérer les victimes et de mieux les orienter. À la fois, qu'en est-il et que pensez-vous de ce discours des pouvoirs publics ?
Écoutez, Madame Buzyn ment. C'est grave parce qu'elle est médecin. Vous voyez, ce serait politique non médecin, mais elle est médecin. C'est catastrophique, vous comprenez ? Parce que sa défense ne tient pas. Écoutez, la définition d'un fichier, c'est de relever un certain nombre d'éléments de manière systématique. Quand ces éléments sont les identités, ça s'appelle un fichage. Mmh. Voilà, ça c'est du français. Alors, le terme fichage peut avoir une connotation positive ou négative, mais là, il n'y a aucune raison d'activer ce fichier civique lors d'un mouvement social. D'ailleurs, les arguments utilisés par Madame Buzyn ou le directeur général de l'assistance publique sont de bas étage et ne correspondent pas à la réalité de notre quotidien. Monsieur Martin Hirsch, directeur général de l'assistance publique, a commencé à expliquer qu'il avait besoin d'activer ce fichier parce que il y avait une suractivité et qu'il fallait qu'il puisse analyser cette suractivité pour pouvoir mettre les moyens en conséquence dans les services d'urgence. Écoutez, on relève quotidiennement grâce à l'informatique notre activité en temps réel. C'est des bâtons. Hein, on sait combien on a de patients dans le service d'urgence, combien il nous reste de lits, etc. C'est en continu, c'est à disposition de l'Agence régionale de santé. On l'utilise pour tous les événements sanitaires, période de grippe, canicule, etc., pour effectivement adapter les effectifs. Vous savez, hormis deux ou trois manifestations sur les 23 journées des Gilets jaunes où il y a eu un petit peu plus d'activité, en particulier lors de la manifestation en décembre, où là on a été un petit peu surpris du nombre de blessés, il n'y a pas eu de catastrophe sanitaire. Oui. Donc la justification d'activer ce dispositif n'est pas valide. Et alors ce qui est grave, c'est que vous voyez, c'est l'accumulation de mensonges. L'accumulation de mensonges, ça c'est effectivement catastrophique quand ce sont des politiques qui essayent de justifier l'injustifiable face à des valeurs qui sont les valeurs de société, les valeurs de déontologie, d'éthique, c'est les valeurs qui fondent la qualité d'une société.
D'accord, il faut. Docteur Prudhomme, et après on viendra vers le docteur Tinès.
Il faut rappeler les atermoiements que l'on a vécu. On a eu quand même un directeur de la PHP qui au départ nous a dit qu'effectivement il n'utilisait pas ce fichier. On lui a prouvé que oui, il a dit qu'il l'utilisait mais que c'était pas nominatif. On lui a claqué les copies d'écran sur lesquelles il y avait, venant de ses services, injonction de ne pas oublier de prendre les données nominatives. Donc il a acquiescé. Il a dit qu'il n'y avait pas d'éléments médicaux. On lui a claqué les photos d'écran avec les éléments médicaux. Et il a fini par nous dire que c'était une erreur d'un stagiaire. Je veux dire, tout ça n'est pas sérieux. D'accord. Et si le sujet n'était pas si grave, il prêterait à en rire. Malheureusement, comme le dit Christophe Prudhomme, c'est un sujet qui est extrêmement grave. On a une ministre qui est médecin. Elle sait que cela bafoue le secret médical et elle se réfugie devant une espèce d'utilisation administrative qui serait normale. Ce n'est pas normal.
Alors là, on a vu dans les manifestations, certains ont parlé de scènes de guerre. D'autres ont parlé d'armes de guerre utilisées par la police. Je me tourne vers le professeur Tinès. Vous êtes neurochirurgien au CHU de Besançon et vous avez mis en ligne une pétition pour demander à terme l'arrêt des flashballs, LBD, grenades lacrymogènes ou de désencerclement dans les manifestations. Dans votre pétition qu'on trouve sur le site change.org, il y est écrit « Un projectile de type LBD-40, par exemple, lancé à plus de 90 mètres secondes, 324 km/h, a une force d'impact de 200 joules. C'est comme si on vous lâchait un parpaing de 20 kg sur le visage ou la tête d'une hauteur de 1 mètre. » Professeur Tinès, à la fois, pourquoi avoir lancé cette pétition? Où est-ce que vous en êtes? Et est-ce que vous avez une réponse des pouvoirs publics?
Eh bien, merci beaucoup pour votre invitation. Donc, comme l'ont dit nos deux confrères qui sont sur votre plateau, puis on a de la chance aujourd'hui, puisqu'on a tout le panel de la profession qui est représenté au travers d'un médecin généraliste, d'un urgentiste et d'un chirurgien. Nous, ce qu'on dit en tant que soignants, et c'est ce que j'ai voulu relayer aussi au travers de cette pétition, c'est que nous sommes légitimes pour nous insurger contre l'usage d'armes de guerre, puisque ces armes sont classifiées par toutes les conventions internationales comme des armes de guerre. D'ailleurs, on a vu un député suisse qui a lancé une motion dans son propre pays pour interdire l'exportation de ces armes en France, puisqu'elles sont utilisées contre des citoyens et non pas sur des terrains de guerre. Nous, ce qu'on dit en tant que soignants, c'est qu'au nom de notre déontologie, en particulier les articles 2 et 12 du Code de déontologie médicale, on est tout à fait légitime pour alerter la population sur une menace de santé publique qui est cette épidémie de mutilation à répétition qu'on voit tous les samedis, puisque c'est en ça que nous on prend parole, c'est pour éveiller les consciences de vos auditeurs sur cette problématique qui est que maintenant en France il y a plus de 220 blessés graves par l'utilisation de ces armes que sont les lanceurs de balles de défense, les grenades de désencerclement et même les grenades lacrymogènes, qu'il y a eu 5 personnes qui ont été amputées, qu'il y a eu 24 personnes éborgnées et qu'il y a eu même eu un décès puisqu'il y a une dame âgée qui est décédée à Marseille d'un tir de lacrymogène dans le visage.
Alors quand vous dites 220 blessés graves, ce sont vraiment les chiffres que même le ministère cette fois reconnaît, on n'est pas dans la surenchère d'une part ou d'autre.
Ce n'est pas de la surenchère, et même je vais vous dire que ces chiffres sont parfaitement sous-estimés dans la mesure où, compte tenu du fichage des manifestants et des pressions politiques qui s'exercent sur les manifestants, il y a beaucoup de personnes, et moi j'ai été contacté sur les réseaux sociaux par pas mal de personnes qui ont été blessées et qui n'osent pas se rendre à l'hôpital. Donc en fait, ces chiffres-là sont des chiffres sous-estimés que l'on peut retrouver sur des médias, on va dire, alternatifs, que sont le Allo La Place Beauvau de
Dufresne. David Dufresne, oui.
Et qui sont des chiffres assez concordants qui relèvent les mêmes données, hein, puisqu'il y a plus de 2000 manifestants qui ont été blessés, 2400 manifestants, et parmi ceux-là, c'est 220 blessés liés à ces armes sublétales que nous, pour lesquelles on appelle à leur interdiction au travers de cette pétition des soignants pour un moratoire contre l'usage des armes moins létales. En fait, on parle d'armes moins létales, pour dire simplement que ce sont des armes létales en soi, qui sont utilisées en fait à des fins politiques. On l'a bien vu ces derniers mois, ce qui est inacceptable. Et nous, en tant que médecins, on est tout à fait scandalisés de voir des concitoyens mutilés chaque semaine.
Voilà. Alors, on pourrait être extrêmement étonné de se dire qu'il n'y a pas plus de blessés, ou des blessés encore beaucoup plus graves, ou même plus de morts en la matière avec de telles armes utilisées. Est-ce que, par rapport à votre pétition, vous avez eu un retour de la part du gouvernement? Est-ce qu'ils ont pris, je veux dire, est-ce qu'ils prennent la mesure de ce qu'ils utilisent?
Bah écoutez, quand vous dites qu'il n'y a pas eu tant de blessés que ça...
Non, j'ai dit il y aurait pu avoir beaucoup plus de morts et de blessés graves.
Oui, mais c'est un chiffre quand même inédit quand on voit qu'il y a eu plus de blessés qu'en mai 68 lors de ces semaines de manifestations de gilets jaunes. Je pense que c'est quand même quelque chose d'assez inédit. Pour ce qui est du positionnement de notre gouvernement, et on l'a encore entendu, je dirais malheureusement cette semaine, Monsieur Nunes qui se félicite de l'usage de ces armes et de la bonne gestion des manifestations par les forces de l'ordre qui sont sous son commandement, quand on voit qu'il y a eu plus de 220 blessés graves, plus de 2400 blessés manifestants et 1700 policiers blessés, je ne pense pas qu'on puisse se féliciter et s'enorgueillir d'un tel bilan. Je crois même que dans ces conditions, le gouvernement et le ministère de l'Intérieur devraient vraiment se poser des questions sur sa légitimité.
Eux ne vous ont toujours pas répondu à rien du tout.
Bah écoutez, moi j'avais alerté le défenseur des droits, Monsieur Toubon. Son équipe m'a répondu qu'elle prenait en compte ma requête. Maintenant, on voit bien que ce soit à l'échelle des armes sur-létales, que ce soit à l'échelle du fichage des manifestants, ou puisqu'on est en train de parler de médecine, à l'échelle de la qualité des soins et de la souffrance des soignants à l'hôpital, et on le voit au travers du mouvement des urgences, de la grève des urgences, on voit bien que notre gouvernement est dans une surdité totale, dans un déni de réalité, et dans une fuite en avant qui est extrêmement inquiétante.
Très bien, professeur Tinet, je vous remercie. On va revenir pendant vraiment 20 secondes sur justement cette actualité. Les urgences sont là en grève. Là, je me tourne vers le docteur Prudhomme, qui est un peu au centre de cette bataille-là. On a un peu halluciné, aujourd'hui, le jour de l'enregistrement de l'émission, parce qu'on a vu des médecins qu'on est allé chercher le week-end dernier.
Des médecins, des infirmières, des infirmières, des aides-soignantes.
Qu'on est allé chercher chez eux pour combler justement les trous ou les manques face à cette grève-là. On en est où là par rapport à ça ?
On est face à un gouvernement autoritaire qui refuse tout dialogue avec des salariés qui aujourd'hui protestent avant tout contre le fait qu'ils n'arrivent pas à prendre en charge les patients en toute sécurité. Voilà, donc c'est quand même grave. Mmh. Ils réclament, oui, pour eux, mais surtout pour leurs patients. Et qu'on est en face à un gouvernement autoritaire et qui ne répond pas, eh bien écoutez, je trouve ça scandaleux.
Non, il y a une phrase dans la pétition qui dit qu'un médecin n'a pas vocation à obéir. Mmh. Mais c'est valable pour tous les soignants. Et dans des circonstances comme ça qui font prendre des risques à la fois aux médecins et aux patients, les médecins et les patients n'ont pas vocation à obéir et leur rôle, justement, dans leur indépendance, c'est de savoir se lever et dire non. Et c'est ce que font nos confrères aux urgences. Et il faut les saluer pour ça.
La Libre Pensée vous invite à une conférence débat autour du livre sur les gilets jaunes à la Bourse du Travail de Paris à 19h avec les autres syndicats qui seront aussi présents, FO, CGT, FSU, autour du livre « Gilets jaunes, un nouvel horizon » et nous y retrouverons Juan Branco, mais aussi les autres contributeurs de cet ouvrage. Je vous remercie donc tous les trois et je vous retrouve le mois prochain.
Rattlesnakes unfold. Mountain cats will call.